Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans le film qui a changé ma vie. Je m'appelle Junior, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Bonne année à toutes et à tous, meilleurs vœux pour 2021, la santé bien évidemment, accompagnée d'un visionnage de bons films toute l'année, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce podcast qui est là pour vous donner envie de voir ou revoir un long métrage grâce à une conversation intime où mon invité évoque sa rencontre et le lien fort tissé avec un film qui l'a profondément marqué et qui est devenu pour lui, pour elle, synonyme de souvenir personnel ou une vraie source de vocation, d'inspiration. Dans ce 13e épisode, mon invitée s'appelle Pauline Mallet et à 25 ans, celle qui est actuellement critique de cinéma a découvert dès l'âge de 8 ans Titanic, film de James Cameron multi-oscarisé. Comme vous pouvez vous en douter, Pauline était très loin de s'imaginer que ce film serait celui qui allait faire naître sa passion d'écrire sur le 7e art. Avec Pauline, on a parlé entre autres de féminisme, de Rose, de Jack, de films multigenres, de documentaires sur le naufrage façon Cameron, de mélo, de scènes de danse, de James Horner ou encore de Céline Dion. Et oui, difficile d'y échapper avec ce film. Je vous propose de découvrir l'entretien que j'ai enregistré avec la créatrice et animatrice de l'excellent podcast Cinéma et Féministe qui a pour nom Soro Ciné, juste après un extrait de Titanic.
J'ai tout ce qu'il me faut ici avec moi. Je pense que la vie est un don et je ne veux pas le gâcher. On ne sait pas quelle donne on aura le coup suivant. On apprend à accepter la vie comme elle vient.
À l'arrivée du bateau, je m'enfuirai avec toi.
Bonjour Pauline Mallet.
Bonjour.
Sois la bienvenue dans le film qui a changé ma vie.
Merci beaucoup à toi pour l'invitation.
Je suis sincèrement ravi de t'accueillir et tu as choisi un film, très gros film. Je crois que tu risques de battre le record d'Amélie Poulain qui pour l'instant est l'émission la plus écoutée avec Titanic de James Cameron. On est en 1998, le 7 janvier pour être précis sa date de sortie. La première question est vraiment la question classique du film qui a changé ma vie. Je vais te demander, s'il te plaît, Pauline, de bien vouloir nous résumer le film pour ceux qui vivaient sur notre planète ou pour ceux qui sont peut-être très jeunes et ne l'ont pas encore vu.
L'histoire de Titanic, c'est celle très connue historiquement du naufrage du paquebot qui était à l'origine le paquebot le plus grand et le plus moderne du monde. Et donc, dans ce film, on suit notamment l'histoire de Rose, une jeune bourgeoise qui, intègre le Titanic et qui va tomber amoureuse de Jack, un artiste pauvre. C'est comme ça qu'on peut résumer en quelques lignes Titanic. Sinon, comme tu l'as dit, c'est un film de 3 heures, donc il y a beaucoup de choses à dire dessus.
Oui, alors je vais essayer vraiment de recontextualiser et de vous parler de ce film qui est considéré pour beaucoup comme un chef-d'œuvre. Alors au casting, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Katie Bates, Bill Paxton, Billy Zane, c'est le méchant de service, Frances Fisher et Gloria Stewart, qui est Rose, la plus âgée. 11 récompenses recueillies lors des Oscars 98, comme avait su le faire avant Ben-Hur et après Le Seigneur des Anneaux. Parmi les récompenses pour Titanic, meilleur film, meilleur réalisateur pour James Cameron. Meilleure direction artistique, costume, photographie, montage, effets visuels, et j'en passe, hein, et meilleure chanson originale pour My Heart Will Go On, mais ça on y reviendra plus tard. Titanic, c'est 200 millions de dollars de budget, 600 millions de dollars au box-office américain. En France, 21 800 000 entrées, il reste à ce jour le film le plus vu en période post-Seconde Guerre mondiale, devant Bienvenue chez les Ch'tis, et Intouchable. Le temps que je reprenne ma respiration, Pauline, n'hésite pas à m'arrêter si je dis des bêtises.
Non, tu résumes bien le film. On voit que c'est un petit morceau du coup de cinéma.
Ah oui, il compte énormément dans l'histoire du cinéma. Le temps que je reprenne ma respiration, Pauline, est-ce que tu peux me dire déjà quand est-ce que tu as entendu parler de ce film pour la première fois? Parce qu'en 98, tu avais 3 ans.
Alors moi, je suis l'aînée de ma fratrie, donc j'avais des cousines qui, elles, étaient plus âgées que moi. À l'heure actuelle, elles ont 35-40 ans et elles étaient extrêmement fans de ce film. Alors évidemment, moi, comme tu le disais, à la sortie, j'étais trop petite, je pouvais même pas aller voir des films en salle. Et en fait, comme elles étaient fans et qu'elles sont allées au cinéma toutes ensemble, quand j'ai grandi et qu'elles parlaient encore de ça, je me souviens qu'une de mes tantes avait un poster du Titanic dans sa chambre. Enfin, voilà, c'est des souvenirs que j'ai enfant. Quand j'ai pu le découvrir, j'ai découvert chez moi, en VHS à l'époque. Et ça a été une addiction, ce film, puisque je l'ai vu en boucle, ce qui est assez étonnant parce que j'avais peut-être 7-8 ans. Que 8 ans, c'était même l'âge maximum. Et vraiment, je restais devant du début à la fin sans problème. Enfin, si mes parents ne m'enlevaient pas de la télé, je pouvais très bien le revisionner. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'ai découvert Titanic, puisque je ne l'ai pas découvert en salle de manière complètement naturelle. Ça a été vraiment des gens qui ont contribué à ce que je le vois, en fait.
Très bien. Ça, c'est jeune, 8 ans. On recommande plutôt le film autour de 10, hein, d'après les nombreux sites que j'ai consultés.
Oui, alors ce qui est assez intéressant, c'est que mes parents ne sont absolument pas cinéphiles, même au sens le plus dénué possible. Ce sont des gens qui, même actuellement, vont trois fois maximum par an au cinéma. Donc, très jeune, quand je me suis vite intéressée au cinéma, ils me laissaient une grande liberté, en fait, sur ce que je pouvais voir. Je me souviens avoir vu, par exemple, Jurassic Park très, très jeune, ou même d'autres films qui, aujourd'hui, c'est pas que je regrette de les avoir vus trop jeunes, mais disons qu'en les redécouvrant plus âgés, je me dis que effectivement, c'était obligé que je passe à côté. Donc disons que c'est un peu une chance, puisque le fait de ne pas avoir des parents qui connaissent très très bien, eh bien j'ai pu voir des choses qui soit n'étaient pas de mon âge, soit en fait ont contribué aujourd'hui à me décomplexer en fait en termes de cinéma. Alors là, je parle d'un cinéma très populaire et grand public, donc ça peut pas forcément, enfin ça parle pas forcément, mais voilà, disons les choses comme ça. Le fait que mes parents ne connaissaient pas vraiment le cinéma, ça m'a permis, moi, d'aller piocher dans les VHS de mes tantes, mes oncles, sans problème.
Oui, tu fais partie de ces enfants qui ont regardé en boucle et en boucle et en boucle un film. Mais ce n'était pas des Disney chez toi, c'était finalement un film grand spectacle, une fresque de 3 heures.
Il y a eu des Disney, alors c'était plus les Pixar, puisque je suis de la génération où Pixar a commencé. Donc je me souviens que je pouvais regarder aussi de nombreuses fois le premier Toy Story. Mais c'est vrai que Titanic, ça a eu... Je suis toujours très prise par l'émotion quand j'en parle parce que très jeune, en fait, j'avais déjà conscience de la grandeur en fait du film sans aujourd'hui avoir le bagage culturel et analytique que je peux avoir aujourd'hui. Ça a été vraiment sur cette télé. En plus, aujourd'hui, on a des télés immenses, donc on se rend pas trop compte. Mais à l'époque, c'était des gros blocs et rien que...
En 4 tiers.
Tout à fait, rien que au sein de cette télé... J'avais l'impression de cette grandeur qui, la première image du paquebot, m'englobait en fait totalement. Et c'est quelque chose auquel j'ai vraiment tenu particulièrement à garder ce souvenir-là, et on en parlera tout à l'heure. Ce qui est intéressant, peu importe quel film on voit plus jeune, que ce soit des films d'animation ou non, c'est la force que l'esprit enfant peut avoir pour garder en fait... des souvenirs intacts, en fait. Et aujourd'hui, même quand je revois Titanic, j'ai encore ce souvenir intact. Alors, je ne sais pas vers quel âge, je ne sais pas comment, mais j'ai juste ce souvenir d'avoir vu, en fait, la grandeur de ce film.
Tu en étais sortie dans quel état lors du premier visionnage? Je sais que tu étais très jeune, mais comment tu t'es sentie quand t'es sortie des 3 heures? Parce que c'est quand même très long, même si on n'a pas la même notion du temps quand on est petit.
C'est exactement ça, en fait. On n'a pas la même notion du temps. Et effectivement, j'étais très jeune, donc c'est des souvenirs un peu mélangés. J'ai pas les souvenirs intacts d'une séance en particulier. Et je me souviens vraiment que ma mère me disait... Enfin, ma mère terminait... quand je regardais le film, elle terminait en larmes, complètement lessivée quand elle le regardait avec moi. Et moi, j'en étais vraiment intacte. Et ma mère me disait « Mais tu comprendras quand tu seras plus grande et que tu le reverras. Tu verras pourquoi, en fait, moi, je pleure. » Je savais que c'était triste parce que Jack meurt et qu'on voit, en fait, des images... Il y a des images marquantes, je pense notamment à cette maman avec son nourrisson, en fait, dans l'eau. C'est des images qui, enfant, m'ont terrorisée, en fait. Et évidemment que j'en parlais à ma mère. Et ma mère, en fait, elle était plus dans... tu sais, c'est une histoire vraie. Les gens ont vraiment vécu ça. Et elle m'a apporté des documents, plutôt. Je me souviens qu'elle m'avait acheté un livre sur l'histoire vraie du Titanic. Donc, ça n'avait rien à voir. Enfin, C'est pas que ça n'avait rien à voir avec le film, c'est que là on était plutôt dans l'aspect historique. Et finalement, ça m'a appris plein de choses. Et je me souviens de cours d'histoire où en fait, je savais grâce à Titanic certaines choses. C'est plus comme ça, en fait, ça a amené aussi un débat. Comme je te le disais, mes parents n'avaient pas trop conscience, en fait, de ce que je pouvais voir ou pas. C'est pas du tout des mauvais parents pour autant, mais disons que quand même, ils m'accompagnaient après. Ils étaient complètement ouverts à la discussion, savoir ce que j'avais ressenti. C'est intéressant, en fait, d'en discuter après. Et c'est vrai que récemment, j'en ai reparlé avec ma mère. Et ma mère me disait, mais je sais même pas pourquoi on te laissait regarder ça, parce qu'en fait, c'est horrible, quoi.
Peut-être aussi parce qu'ils avaient la paix pendant 3 heures.
Aussi, c'est vrai. Et comme j'étais très bavarde jeune, ça devait être aussi leur havre de paix.
Ah, elle va être calme pendant 3 heures. On la met devant le film, plus c'est devant ça. DiCaprio. Il est beau, ça va nous aider. Le visionnage suivant, il a intervenu quand ? Parce que aujourd'hui, tu travailles dans le cinéma, certes, mais avant d'en arriver là, tu n'avais pas encore atteint un âge à 2 chiffres. Les visionnages suivants sont arrivés au bout de combien de temps dans ta jeune vie encore ?
Pour en avoir rediscuté avec ma mère récemment, je pense que de mes 8 ans à mes 12 ans, j'ai vraiment vu le film. Alors, quand je dis en boucle, c'est peut-être un peu abusé. Disons que je l'ai revu plusieurs fois par an. Le visionnage suivant, je ne le connais pas, puisque comme je te disais, c'est vraiment des souvenirs qui se mélangent. Par contre, je connais en fait un peu mon dernier visionnage où en fait je rentrais au collège. Et ça a été vraiment mon dernier visionnage du film, parce que à ce moment-là, c'est pas que c'était honteux d'aimer Titanic, mais disons qu'il y avait en fait le film. Alors, quand on parle avec des gens qui ne s'intéressent pas forcément au cinéma, Titanic s'est encore vu un petit peu comme le film à l'eau de rose qui fait pleurer les gens, etc. Et en gros, qui n'a pas trop d'intérêt, on va dire, puisque les gens ont un vrai problème avec l'émotion, je pense. Et du coup, au collège, comme je commençais à vraiment m'intéresser pour le coup au cinéma, à vouloir voir d'autres choses, j'ai un peu laissé de côté Titanic. Et je me souviens que ce dernier visionnage, c'était pendant les grandes vacances. Je crois que c'était en 6e ou juste avant en fait, d'entrer en 6e. Et ça a été vraiment mon dernier visionnage. Je me souviens qu'à l'époque, c'était sur un DVD qui était en 2 parties. Enfin, il y a vraiment 2 DVD dans la jaquette.
Non, je me souviens plus de cette période-là. Face A, face B, quoi, comme pour une cassette audio.
Ouais, c'est ça. En fait, dans la jaquette, il y avait DVD numéro 1, DVD numéro 2. Aujourd'hui, ce qu'on peut retrouver avec un DVD, avec le commentaire audio ou tout ce qui est bonus, bah non, là, c'était vraiment la deuxième partie du film. Et ça, c'est le dernier souvenir que j'ai concernant Titanic enfant. Et on en parlera juste après. Ça a été ensuite une très, très longue période jusqu'à janvier de cette année, donc janvier 2020, où je n'ai pas vu le film du tout.
Donc, entre tes 12 ans et tes 24 ans, je dis pas de bêtises,
ouais, c'est ça.
Tu n'as plus du tout revu le film. Ça alors ?
Alors, ce qui est marrant, c'est que le film était ressorti en 3D au cinéma et que j'aurais pu très bien le voir.
C'était en 2012, oui.
Ouais, mais je ne l'ai pas vu. En fait, à ce moment-là, je me disais, le jour où je vais revoir Titanic, il faut que ce soit exceptionnel. En fait, il faut que le souvenir que j'en ai de moi enfant soit intact, voire mieux, en fait. Et du coup, pendant très longtemps, l'idée de voir Titanic m'a un peu empêchée de le voir, parce que j'avais vraiment peur d'être déçue. Et je pense que c'est le cas pour plein de choses de notre enfance. On a peur de juste revoir quelqu'un ou revoir un film, manger quelque chose, parce qu'on se dit que ce sera jamais aussi bien que quand on était enfant. Et du coup, j'avais vraiment cette peur.
Tu avais peur parce que tu l'as sûrement sacralisé et idéalisé. Donc,
c'est totalement
plus
ça,
dur
en fait.
Peut être la chute.
Exactement. Je me disais, entre mes 12 ans et mes 24 ans, j'ai vécu, puisque non seulement j'ai fait toute ma scolarité, mais j'ai aussi fait un parcours d'études de cinéma. Et je suis aussi au début de ma carrière de critique de cinéma, donc je n'ai plus du tout la même vie qu'à mes 12 ans.
Donnez-moi votre main. Fermez les yeux. Allez. Montez là-dessus. Accrochez vos garde-fous. N'ouvrez pas les yeux, ne regardez pas.
Je ne regarde pas.
Montez sur la balustrade.
Je vole ! Jack !
Tu aimais les Pixar, tu aimais Titanic. Voilà ton rapport au cinéma jusqu'à l'adolescence. J'aimerais juste revenir sur une chose que tu as dite plus tôt, qui m'a marqué, c'est le fait que quand tu entrais dans l'adolescence, le fait d'aimer Titanic, ça collait pas avec vraiment quelqu'un qui aimait le cinéma grand public. C'était un film plus proche du film sentimental, du mélo. Mais j'aimerais beaucoup que tu répètes pour les auditeurs les moins emballés par le film Titanic ce que tu m'as dit hors antenne, que je trouve ça assez fort. Comment tu décrirais Titanic en fait dans son genre, en tant que genre? Est-ce que c'est juste un mélo?
Non, en fait, Titanic, il est multigenre. Et je pense que c'est ça qu'il y a à retenir, c'est que dans ce film, vous avez à peu près tous les genres du cinéma réunis. Vous avez effectivement cette histoire d'amour qui fait en fait la singularité de tous les grands films du cinéma. Quand on parle d'Autant n'emporte le vent, c'est une histoire d'amour, par exemple. Donc l'histoire d'amour souvent fonctionne très très bien au cinéma, surtout dans les grandes productions. Et mais Titanic, c'est aussi un film catastrophe, un film presque survival, quand Rose, elle est toute seule sur cette fameuse planche et qu'elle a ce sifflet et qu'elle doit en fait se faire entendre alors même qu'elle est gelée, donc c'est très compliqué. Ça, c'est aussi du survival. Il y a presque du film d'horreur aussi dans ce qu'on voit. Je veux dire, on a quand même, au moment du naufrage, des gens en train de mourir, d'hurler, et même juste avant, quand Rose doit détacher Jack qui s'est fait menotter, il y a cette scène où elle est avec sa hache et, oui. Et ces lumières qui commencent à bugger puisque l'eau commence à rentrer. On a du coup le film d'horreur, le survival, comme je le disais. On a aussi le film historique, le drame historique, puisque c'est une histoire vraie. Et ce qui est assez fascinant avec Titanic, c'est que c'est un film où on connaît la fin. On sait, tout le monde sait avant de voir le film, que le Titanic va couler.
De par l'histoire et de par l'intro du film, puisqu'on a l'explorateur...
C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que dès le départ, on sait que ce qu'on va voir, c'est un paquebot qui a coulé. Donc, et effectivement, tu le disais, l'introduction, moi je trouve aussi que le film, et c'est quelque chose évidemment que je peux vous dire maintenant, parce que cette année je l'ai revu du coup 3 fois pour pouvoir justement combler ce manque qu'il y a eu entre mes 12 et 24 ans. C'est aussi un film qui pour moi a une importance primordiale, puisqu'il nous dit avant toute chose qu'il faut écouter le récit des anciens. Quand on a Rose plus âgée, qui va sur ce bateau, qui est en train de rechercher. En fait, il cherche quoi ? Il cherche le bijou du Titanic, et elle est là pour raconter son histoire. Et il y a un moment donné où elle dit sa fameuse phrase, c'était il y a 84 ans, et quelqu'un la coupe en disant oui, enfin. Et là, elle lui dit, vous voulez écouter mon histoire ? Vous ne voulez pas. Et je trouve que c'est très important parce que le film, au-delà de tout ce qu'il est dans sa globalité, il est là aussi pour nous dire, regardez, ce que vous, dès le départ, on est en train de chercher les ruines d'un drame humain et d'un drame qui a marqué l'histoire de l'humanité. Et en fait, Cameron nous dit à ce moment-là, regardez, ça c'est l'histoire historique, elle est avant tout intime. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, et je trouve aussi qu'en le revoyant plus récemment, ça nous montre aussi qu'on a tendance à justement ne plus écouter la parole de celles et ceux qui ont vécu quelque chose, où on va chercher du sensationnalisme, du buzz, etc. Et là, en fait, elle leur dit clairement « écoutez-moi ».
C'est ce que j'aime beaucoup dans le départ de Titanic, et j'avais oublié toute cette construction-là, pour prolonger ce que tu dis, de l'assistant de l'explorateur en chef qui annonce, donc qui décrypte, nous détaille le naufrage du Titanic en 3D, voilà comment ça s'est brisé, etc. Il le dit très froidement, limite de façon cynique, et il y a cette phrase de Rose qui lui dit « c'est pas comme ça en gros que je l'ai vécu, quoi ». Et c'est là où le départ est magnifique. On part des ruines, de ce qu'il y a de froid, de la mort, de ce qu'il y a de plus distant, à quelque chose de beaucoup plus chaleureux pour vous dire « mais avant d'en arriver là, il y avait de la vie, monsieur ».
C'est ça, et puis je parlais du multigenre, il y a aussi, et parce qu'on parle du récit de Rose, l'histoire de l'émancipation en fait de cette femme, qui est une femme privilégiée, on le voit dès le départ, c'est une bourgeoise, et qui pourtant est enfermée plus que cet homme pauvre en fait, qui va lui apprendre ce que c'est la vie. Et je trouve aussi qu'il y a un truc assez incroyable dans Titanic, et c'est pour ça que j'invite aussi tout le monde à le voir ou à le revoir, surtout quand on a un film comme Parasite l'année dernière qui a fait autant d'entrées. C'est que Titanic, comme Parasite d'ailleurs, montre les différentes classes sociales et comment les privilèges amènent les gens à être toujours un peu plus privilégiés. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai vu Parasite, alors même que j'avais pas encore revu Titanic, la construction du film avec ses étages, puisque la famille plus pauvre doit descendre pour aller chez elle, c'est exactement la même chose pour le Titanic. Le paquebot, il est construit de cette façon. Les plus pauvres sont tout en bas, ils sont vers l'eau.
Limite près des salles des machines.
Et d'ailleurs, exactement. Et d'ailleurs, ça va être prémonitoire, puisque on a su très rapidement que parmi les survivants, la majeure partie de ces survivants étaient issus justement de la première classe. Et on le voit tout de suite. Alors, il y a des scènes vraiment marquantes, encore une fois, de cette maman qui couche ses deux enfants parce qu'elle ne peut pas, en fait, atteindre les canaux de sauvetage. Donc, elle le sait. D'ailleurs, elle leur dit cette phrase. Non, d'abord, c'est la première classe, puis la seconde classe, puis enfin, ce sera nous. Elle explique à ses deux enfants, en fait, de manière très... enfantine, elle explique comment en fait le monde fonctionne. Et d'ailleurs, quand on voit les premiers canaux de sauvetage à peine remplis avec ces gens avec leurs gros manteaux faits de fourrure, etc. C'est ça aussi en fait Titanic. Ça nous parle aussi de classe sociale. Donc au-delà du mélo qui est pour moi en fait une des qualités du film, et je trouve ça dommage, et je le dis tout en ayant moi-même jugé le film à ce moment-là, c'est oui, c'est une histoire d'amour, et c'est aussi bien en fait d'aimer les histoires d'amour.
Pour reprendre le fil de ta vie, tu as fait un bac spécialisé audiovisuel ou tu as fait un bac général classique ?
Non, pas du tout. Moi, j'ai fait un bac classique parce que... alors déjà, dans mon lycée, il n'y avait pas du tout la possibilité de faire du cinéma. Par contre, j'avais une option art appliqué. Et la dernière année de mon bac, avec cette option art, c'était une spécialisation, c'était pas une option, on pouvait choisir un sujet au choix. Et moi, je l'ai fait sur le cinéma et la notion plastique au cinéma, donc à travers des réalisateurs qui sont aussi plasticiens. Ça a renforcé déjà, en fait, mon attrait en fait, pour le cinéma. Après, il était déjà là. Je me souviens déjà qu'au lycée, tout le monde savait que j'aimais le cinéma et j'étais un petit peu... justement la cinéphile du lycée, ça c'était déjà quelque chose qui était là, mais j'avais pas de bac spécialisé, par contre, et après je me destinais même pas à des études de cinéma, je me destinais plutôt à des études littéraires, et lorsque j'ai passé ma spécialisation art, un des membres du jury, je ne sais même plus son nom, et aujourd'hui, j'aimerais pourtant juste le remercier parce qu'à la fin de mon oral, il m'a dit « Qu'est-ce que vous faites l'année prochaine ?» Et je lui ai dit que je partais en prépa littéraire. Et il m'a dit « Vous n'allez pas vers le cinéma ?» Je lui ai dit « Non ». Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit « Je sais pas trop ». Et il m'a dit « C'est dommage ». Et en fait, toute mon année de prépa, ma première année de prépa, je me disais « Pourquoi je vais pas en cinéma, en fait ?» Donc c'est un peu comme ça que mon parcours... c'est fait.
Ça t'a mis la puce à l'oreille, le fait qu'ils te disent « mais pourquoi vous n'allez pas vers ça ?»
Ouais.
En gros, vous en sortiriez très bien. Comme quoi, il y a toujours des profs qui nous ont guidés, directement ou indirectement.
C'est ça, parce qu'en fait, moi, j'avais déjà envie d'être journaliste depuis le collège, en réalité. Et on embrigade beaucoup, en fait, les enfants, quand ils veulent être journalistes, comment ça se passe. Et on ne permet pas aux enfants d'avoir des parcours différents. Or, pour moi, c'est très important, et aujourd'hui, je le vois davantage dans cette profession, où en fait, on a besoin de parcours différents, parce que si on a une espèce d'unité, c'est juste dommage. Et c'est vrai que ce prof, qui n'était pas le mien, en fait, il était juste membre du jury à ce moment-là, et c'est pas que je l'ai pas écouté, c'est que je me suis dit, c'est gentil. Quand j'ai vu ma note au bac, j'ai eu 20, donc je me suis dit, il est vraiment gentil. Et puis, en fait... c'est en étant en prépa où je m'y plaisais pas forcément, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, va en cinéma.
Et à partir de ce moment-là, tu es entrée dans une fac de cinéma ?
C'est ça.
À Paris ?
Non, pas du tout. Moi, je viens de Picardie, de base, donc j'étais à Amiens.
Ah, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, tu es parisienne, hein. C'est pour ça que je te posais la question.
Enfin, maintenant, c'est les Hauts-de-France, donc à Lille, il y a ce qu'il faut, mais à ce moment-là, il n'y avait pas du tout de parcours journalistique possible. Donc, je suis venue à Paris pour ces raisons-là, et puis après, malheureusement, Paris reste un petit peu la capitale culturelle, donc c'est comme ça que j'ai pu m'établir.
Attention à ce que tu dis, hein, c'est un podcast qui est lillois.
Hein.
Je suis dans les Hauts-de-France en plus. Non, je te charrie.
Ah non, mais bien sûr. Ah non, non, mais c'est pour ça que je dis malheureusement, parce que du coup, on reste beaucoup, beaucoup sur Paris.
Oui, c'est vrai. Non, non, mais tu
rêves. Enfin, il y a plein d'autres villes et je viens pas du tout de Paris à la base, donc je déplore plutôt la situation.
Tu es des Hauts-de-France, c'est marrant, je savais pas.
Tout à fait.
Et, mais comme moi, je suis à Lille, hein, là où je te parle actuellement.
Et, parfait.
De l'eau à 14 pieds au-dessus de la quille en 10 minutes. Dans le cocon avant, les trois cales et la chaufferie 6.
C'est exact, monsieur.
Mais allons-nous bientôt repartir, bon sang? Ça fait 5 compartiments. Il peut rester à flot avec les 4 premiers compartiments fissurés, mais pas avec 5. Pas avec 5. Comme il s'incline par l'avant, l'eau va se répandre en passant au-dessus des cloisons étanches. Au pont E, de compartiment en compartiment, vers l'arrière. Rien ne pourra l'arrêter.
Les pompes, si nous ouvrons les portes...
Les pompes vous feront gagner du temps, mais seulement des minutes. À partir de maintenant, quoi que nous fassions, le Titanic va sombrer.
Il y a cette entrée en fac de cinéma. Tu apprends évidemment tous les classiques, tout ce qu'il faut connaître en matière de technique, etc. À partir de quand ça s'est dessiné ton envie de vraiment d'être journaliste et critique cinéma? Est-ce que le film Titanic y est un peu pour quelque chose avec le recul?
Avec le recul, je me dis que oui, parce que quand j'ai annoncé aux gens de ma famille qui me connaissent bien, hein, les gens les plus proches, que je quittais ma prépa littéraire pour aller en cinéma, tous m'ont répondu, mais vraiment, et ils étaient une dizaine à me dire « Ah bah oui, Titanic !» Vraiment, c'était leur réponse, quoi. C'était une évidence pour eux, et cette évidence, ils la mettaient en lien avec... Titanic, et quand je l'ai revu avec ce que je suis aujourd'hui, je me suis dit que c'est évident, en fait. C'est évident. Après, je suis restée quand même des années sans le voir et des années sans vraiment en parler. Et je me souviens justement d'un cours d'histoire du cinéma où on arrive à l'histoire moderne du cinéma, donc celle de la fin des années 90 et donc des années 2000. Et évidemment, on parle de Titanic puisque, comme tu l'as cité dans ton introduction, film le plus vu, oscarisé, etc. Et puis surtout, Titanic est un exploit technique. Donc évidemment, on en parle. Et moi, je me souviens qu'à ce moment-là, je me disais « Waouh, tu te rends compte que le film que tu regardais petite, là, t'es en train de l'étudier. » Et le prof avait rigolé en se disant « Oui, bah, maintenant que je vous en parle, vous allez avoir envie ce week-end de vous mettre sous votre couette et de regarder Titanic. » Et c'est vrai que tout le week-end, le week-end suivant, j'y ai pensé et je me suis dit « Non, c'est pas comme ça que je dois le revoir. Je dois pas le revoir comme ça, en fait. » Et du coup, oui, ça a forcément joué. Et quand on en a parlé en cours de cinéma, je me suis aussi dit, tu vois, c'est légitime, en fait, d'aimer ce film.
T'as fait une école de journalisme ou pas, juste par curiosité?
Une formation. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'on mette les gens qui veulent faire du journalisme dans le même moule. Et effectivement, pour faire des études en école, ça coûte assez cher. Et à ce moment-là... C'est posé la question de est-ce que je paye ou pas, et donc la réponse a été non. Donc j'ai fait une formation, puis des stages dans des rédactions, ce qui m'a permis après de pouvoir avoir la dimension de toutes mes études de cinéma avec ce qu'on peut faire en tant que critique de cinéma. Donc je suis plus critique de cinéma que journaliste.
Donc tu livres des articles, des piges pour différents médias.
C'est ça.
J'avais plein de questions autour du phénomène Titanic. Après, on va toujours recoller à ta vie, mais ça m'intéresse quand même d'avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que le personnage de Kate Winslet, Rose dans le film, n'est finalement pas un personnage féministe en avance sur son temps? Elle, à un moment donné, il y a cette scène avec DiCaprio qui lui apprend à cracher. On sait que ça va lui servir plus tard pour mettre enfin à distance un mari violent, un mari qui lui dit comment s'habiller, comment elle doit se comporter, comment elle doit parler, comment elle doit agir. Et en fait, tout ça la fatigue. Elle a besoin juste de vivre et pas de se sentir enfermée. Est-ce que c'est un personnage féministe qui te parle, qui t'a inspiré, qui a peut-être contribué à la création de ton podcast aujourd'hui sur Ociné?
Alors oui, c'est un personnage féministe et j'étais d'ailleurs ravie de le constater quand je l'ai revu en début d'année. Déjà pour citer Iris Bray qui a écrit Le regard féminin et qui a justement parlé du female gaze de Titanic puisque l'histoire du film commence par celle de Rose. C'est le point de vue de Rose. Tout ce qu'on voit du passé, donc pas là, au moment où ils font les recherches, mais toute son histoire avec Jack, c'est de son point de vue à elle puisque c'est elle qui raconte à l'équipe qui fouille les ruines du Titanic, son histoire à elle. Au-delà de ça, il y a des scènes succulentes, notamment une scène où Rose est attablée et on a ces personnages qui parlent du paquebot, dont le créateur en fait du Titanic
Victor et Garber, oui.
Qui tout à fait qui explique que le paquebot est géant, que la taille en fait amène le pouvoir, et Rose lui répond: est-ce que vous connaissez Freud, puisque Freud a beaucoup de choses à dire en rapport avec la taille et le pouvoir. Évidemment, elle se base sur une thèse que Freud a écrite en fonction du sexe masculin en fait. Et nous, public, on sait qui c'est. Et lui a une réponse encore plus succulente puisqu'il dit mais qui est ce Freud ? C'est un passager. Donc non seulement Rose lui parle en fait d'une théorie qui va encore aujourd'hui, dont on va encore parler aujourd'hui sur les relations entre les sexes et les genres, mais en plus de ça, elle est bien plus informée qu'un homme qui a du pouvoir. Et d'ailleurs, cette scène répond à une autre scène, là où elle se retrouve avec Kyle, et en fait, elle a des cadre de Monet et de Picasso dans ses appartements, et il lui dit « ils ne feront jamais succès ». Et elle, en fait, elle lui dit « tu ne connais rien à l'art ». Sur plein de petits points, sans que ça paraisse évident au premier regard, ou sans que ça nous paraisse aujourd'hui féministe, parce qu'on a plein de films où justement ils sont bien moins subtils, Rose, en fait, elle est une personne qui, de toute façon, dans son écriture, n'est pas en phase avec son époque. C'est une femme bourgeoise qui est destinée à se marier à un homme riche et elle ne veut pas. En fait, tout le film, Rose, elle désire une liberté et toutes les personnes qui l'entourent, sauf Jack, veulent la resserrer. Et cette scène du corset, et elle est symbolique pour ça, puisque sa mère lui serre encore et encore le corset. Et sa mère lui dit, bah, c'est ça en fait, être une femme, on fait pas ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Et elle ne veut pas en fait.
Tu ne reverras pas ce garçon, tu m'as bien comprise. Rose, je te l'interdis.
Je vous en prie, maman, vous allez vous déclencher un saignement de nez.
Ce n'est pas un jeu. Notre situation est des plus précaires. Tu sais qu'il n'y a plus d'argent.
Évidemment que je le sais. Vous me le rappelez chaque jour.
Ton père ne nous a laissé pour héritage que de vilaines dettes cachées par un nom célèbre. Ce nom célèbre est la seule carte que nous pouvons jouer à présent. Je ne te comprends pas. Le fils Oakley est un bon parti. Ton mariage assurera notre survie.
Comment pouvez-vous tout mettre sur mes épaules ?
Et toi, comment peux-tu être aussi égoïste ?
C'est moi qui suis égoïste ? C'est tellement injuste.
Bien sûr que c'est injuste. Nous sommes des femmes.
Et puis, il y a cette scène d'amour dans la voiture, où en fait c'est Rose qui décide de mener la danse. Puisque à un moment, donc une fois qu'ils ont terminé de faire l'amour, on le comprend rapidement, Jack est essoufflé et elle lui dit « tu trembles, est-ce que tu vas bien ?» Et en fait, encore aujourd'hui, est-ce qu'on a beaucoup de films où dans les scènes de sexe entre des personnes hétérosexuelles, est-ce qu'on a ce genre de scène où c'est la femme, en fait, qui va demander à l'homme si tout va bien. Et d'ailleurs, même avant ça, quand elle lui dit « tu peux me toucher », il y a même cette histoire de consentement, bien avant que ça devienne une question existentielle aujourd'hui. Donc oui, bien sûr, non seulement Rose est une figure d'émancipation et une figure féministe, mais en plus de ça, le film l'est en lui-même. Et la création du podcast, c'était vraiment née de l'envie de mettre en valeur en fait les femmes à tous les niveaux. Donc évidemment qu'aujourd'hui, je me dis encore une fois que Titanic a dû y contribuer. On parle de Rose qui est une figure indépendante. Donc forcément, elle a dû marquer ma vie bien plus que je ne le pense.
Tu trembles.
T'inquiète pas.
Je vais très bien.
Il y a la question de lorsque Rose a posé pour lui, pour DiCaprio, dans le film, si bah, il a profité de la situation pour aller plus loin. Et j'adore le ressort qu'il y a eu de Rose âgée, qui en gros tout le monde se demande en face quand ils écoutent son histoire, alors vous l'avez fait ? Eh bien non, c'était un professionnel. Comme quoi, oui, tous les hommes forcément ne vont pas sauter sur une femme qui, avec qui il peut se passer quelque chose.
Et là encore, quand on revoit le film en 2020 avec Me Too qui est passé par là, cette phrase de Rose, elle est ultra... Enfin, tout de suite, on la remet avec notre contexte actuel et on se dit, mais pardon, il y a quand même Rose qui a posé pour un artiste. En posant en fait pour Jack, et ben c'est aussi Kate Winslet qui pose pour James Cameron, pour la caméra James Cameron. Et en fait, on voit un corps nu qui n'est pas sexualisé, il est désiré par Jack, mais c'est tout. Et en plus de ça, encore une fois, c'est elle qui le guide. Et d'ailleurs, elle lui dit « You blushing, Mr. Big Artist », une phrase qui est vraiment toute mignonne. Et je trouve que nous-mêmes, on a envie un petit peu de rougir quand on voit la scène, parce qu'on sent que le personnage de Jack, il est très intimidé en fait, par ce qu'il fait, alors que juste avant, on a vu ces centaines de dessins de femmes nues.
Et c'est elle qui est l'initiatrice, c'est elle qui va vraiment pousser DiCaprio, je veux que tu me dessines comme ces femmes parisiennes que tu dessinais, je veux, ouais. C'est elle qui s'affirme.
Il me semble que vous rougissez, monsieur le grand artiste. Je n'imagine pas monsieur Monet en train de rougir.
Ce sont des paysages qu'il peint. Détendez votre visage.
Pardon.
Ne riez pas.
Du coup, je voulais revenir à ta vie, mais en même temps, explorer avec toi des scènes. Mais t'en as décrit tellement que je crois que j'ai déjà plein d'extraits à mettre en tête. Mais c'est bien. À moins que parmi les scènes que tu as évoquées, il y a déjà des scènes que tu préfères. Peut-être qu'il y en a d'autres, n'hésite pas à en citer. Quelles scènes dans le film t'ont le plus marqué et te hante encore quand tu revisionnes le film?
Alors moi, c'est plutôt des plans. Il y a des scènes évidemment que j'aime beaucoup. La scène du dessin, je l'aime bien. Et j'avoue que plus jeune, c'était un petit peu... Moi, je rougissais aussi un petit peu.
Et oui.
Il y avait un espèce de truc sur le désir. J'avais presque autant envie de les regarder tous les deux que d'être à la place de Léo ou d'être à la place de Rose. Enfin, d'être à la place de Jack ou d'être à la place de Rose, parce qu'il y a une espèce de truc très intime et très sensuel, en fait, qui naît à travers cette scène avec toutes ces lumières très intimistes, cette main qui dessine. Alors, pour petite anecdote, c'est James Cameron qui dessine.
Oui, il dessine tellement bien.
Voilà, ça, c'est une petite anecdote. Et en fait, il y a presque quelque chose aussi de sensuel dans la création même du dessin. Et ça, c'est vraiment une scène que je trouve sublime. Et,
est-ce que tu en as une autre en tête ?
J'aime beaucoup la scène où Jack emmène Rose faire la fête en troisième classe. Où en fait, on se rend compte que la première classe, c'est nul leur fête. Enfin, voilà.
C'est d'un ennui mortel où on doit faire des blagues pour bien paraître en société.
Exactement. Et puis tout est dans le paraître. Et puis il y a eu aussi un désir de la part des hommes de la première classe de remettre à sa place Jack. Il n'est pas invité à aller boire avec eux et à fumer un cigare. Et lui, c'est pas grave en fait. Lui, il s'en fiche. Et il l'emmène, Rose, faire la fête. Et j'adore cette scène. D'ailleurs, elle boit mieux que quiconque quand elle prend sa bière et qu'elle la boit cul sec. C'est une scène que j'aime bien. Je trouve qu'ils sont rayonnants, en fait, dedans, les deux. Je comprends pourquoi elle marque encore aujourd'hui. La musique est fabuleuse. On a tout de suite envie de se lever et danser avec eux. Donc, c'est une scène aussi que j'aime bien.
Sur un air irlandais, faut-il le rappeler.
C'est ça.
Venez.
Quoi?
Venez. Venez avec moi.
Ah non, Jack.
Allons-y.
Jack, attendez. Je ne sais pas danser ça.
Il va falloir qu'on se rapproche un peu. Comme ça. Non. Tu es toujours ma cavalière, Cora.
Je ne connais pas les pas.
Moi non plus. Laissez-vous aller. Ne réfléchissez pas.
Et puis, il y a une scène vers la fin que, pareil, que j'adore, c'est celle où, en fait, Rose voit la Statue de la Liberté. Parce que c'est symbolique, en fait. Elle, elle a survécu et, en fait, ce drame pour elle, ça a été sa renaissance. Et je trouve ça merveilleux, en fait, de finir comme ça. Ensuite, on la voit dans son lit vieille, qui en fait, elle s'endort pour toujours et elle les rejoint. Et on voit toutes ces photos d'elle où elle a fait, en fait, tout ce qu'elle n'aurait pas été capable de faire si jamais le Titanic avait pu arriver à bon port avec tout le monde. Et je trouve que c'est assez fataliste, en fait. Et en même temps, il y a cette espèce de... Le fameux rise and fall, mais à l'envers, puisque elle commence, en fait, par être cette personne... voilà, qui est dans la chute, et en fait, ce naufrage va lui permettre de renaître. Et c'est tragique, parce qu'il y a plein de personnes mortes, dont l'amour de sa vie. Hein. Mais en même temps, elle y a trouvé l'émancipation.
Enfin, en 2020, tu as décidé de te replonger dans les 3 heures de Titanic. C'était à quelle occasion et dans quelles conditions ?
En janvier ou février dernier, la Cinémathèque a programmé Titanic en pellicule. Et je me suis dit, c'est le moment. Et j'ai bien fait, puisqu'après, on était confinés. Mais je me suis dit, c'est le moment, je vais le revoir. Et c'était génial. C'était encore mieux, en fait, que quand j'étais enfant. Parce que ce que je disais tout à l'heure, j'ai compris des choses que je comprenais pas. En fait, enfant, je trouvais pas que c'était un film drôle. Et puis... là, j'ai vu aussi la dimension un peu comique de certaines scènes. Avec de l'humour, on rit pas aux éclats, hein, mais avec de l'humour fin et bien ficelé. Oui, vous ne regardez pas ça en mode je vais regarder un feel good movie, mais vous voyez un petit peu l'idée. C'est que je trouve ça très drôle, ce que je disais tout à l'heure avec Freud et tout. Et puis aujourd'hui, j'ai plus la même culture ciné que quand j'avais entre mes 8 et 12 ans. Donc forcément, j'y vois aussi d'autres intérêts. J'y vois l'esthétique, la technique, la photo, la musique... l'acting, donc j'y vois tout ça aussi, quoi. Et je suis ravie d'avoir pu le redécouvrir dans ces conditions-là. Et puis, quand on a été déconfiné lors du premier confinement, Gaumont a décidé de repasser le film. Donc, à ce moment-là, je l'ai revu 2 fois. Et puis, en septembre, il y a le Forum des images qui l'a passé de nouveau. Donc, c'est un peu l'année de la redécouverte totale. Et pour mon plus grand bonheur, parce que je suis presque contente d'avoir attendu autant de temps, puisqu'aujourd'hui, je peux avoir tout l'aspect cinématographique global du film, sans que mes émotions en soient impactées aussi.
Tu vois qu'il y a eu des bonnes nouvelles dans cette année de merde.
C'est ça.
Ton film préféré a pu ressortir, c'est canon. C'est difficile de parler de Titanic sans penser bien sûr à la bande originale. James Horner est derrière. Alors là, j'ai besoin vraiment d'un avis, Pauline, j'ai besoin de ton aide, parce qu'il y a 2 choses. Il y a la voix, cette voix qui vient de l'au-delà, et puis d'une espèce d'au-delà du moins. Puis il y a une autre voix, celle-là vient du Canada et répond du nom de Céline Dion. Où est-ce que tu te situes entre les deux? Parce que ça aussi, ça a été un élément à la fois booster et déstabilisant en mal, en bad buzz du film. C'est-à-dire, voilà le côté cucu, là, la totale avec Céline Dion qui chante My Heart Will Go On. Où est-ce que tu te situes entre les deux? Entre l'orchestra de James Horner et le hit de Céline Dion?
Alors, j'écoute quasiment pas le hit de Céline Dion. J'adore Céline Dion et j'écoute souvent Céline Dion. Là n'est pas la question, c'est juste que au quotidien, j'écoute énormément de bandes originales. Je pense que c'est même ce genre de musique que j'écoute le plus. Et c'est plus facile, en fait, d'écouter ça que d'écouter le titre de Céline Dion. Après, il faut savoir que de base, Céline Dion n'était pas, en fait, mise sur la bande du film. Oui. Il a fallu convaincre justement Cameron de la mettre dessus. Ce qui est marrant, c'est que parfois ce titre est regardé un petit peu de haut en disant que c'est vraiment le côté mélo justement du film qui ressort. La musique de Céline Dion a largement contribué aussi au succès du film et je pense qu'il faut pas l'oublier. Aujourd'hui, dès qu'on entend les 3 notes de cette musique, on se dit c'est Titanic en fait. Et je pense qu'il faut pas non plus dénigrer en fait ce morceau. Après, c'est sûr que c'est pas quelque chose que j'écoute au quotidien, là où je vais pouvoir réécouter en fait au quotidien la musique qui est d'ailleurs à l'image du film multigenre. On a des sons très mélo, d'autres sons vraiment inquiétants. Je pense à un son où on entend les machineries et c'est presque prenant. On est obligé presque de couper la musique tellement on est pris dedans. Mais je vais plus écouter la bande orchestrée plutôt que le hit. Après, à une soirée karaoké, ça fait toujours son effet.
Complètement, ça marche toujours. Un petit Céline pour bien finir la soirée, en effet. L'univers de Titanic, quand tu l'as découvert, est-ce que tu t'es plongé dans tout ce qu'il y avait d'annexes ? Parce que Titanic, ça a vraiment, ce naufrage de 1912 a vraiment inspiré beaucoup en termes de fiction. Il y a eu un autre film de 1996, Le Titanic. Il y a eu des téléfilms aussi. Alors, Le Titanic, c'est avec Peter Gallagher de Newport Beach, pour ceux qui voient un peu. C'était Sandy Cohen de Newport Beach et Catherine Zeta-Jones. Et il y a eu aussi un autre téléfilm, faut m'excuser, j'ai plus le titre en tête. Est-ce que tu t'es replongé dans ces autres fictions aussi, ou pas du tout ?
Pas du tout. Déjà parce que je serais très cruelle envers, malheureusement, ces fictions, puisque je pense que tout le monde l'a compris, que c'est dans mon top de films de ma vie, quoi, donc ça va être un peu compliqué. Et puis, mais après, j'ai déjà vu quelques extraits et en fait, c'est juste que je crois que ça m'intéresse pas et j'ai pas non plus la curiosité d'y aller. Après, par contre, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au cinéma en dehors juste de regarder les films, à savoir regarder les making-of, lire les scénarios, lire tout ce qui est préparatoire à un film, quand je me suis un petit peu intéressée à James Cameron, qui a quand même marqué l'histoire du cinéma.
C'était ma question suivante. Ouais. Sur, est-ce que tu as vu ses documentaires, du coup, à lui ?
Oui, et ben justement, quand j'ai commencé à m'intéresser à vraiment à la création même du cinéma, forcément James Cameron revenait très souvent, puisque c'est quelqu'un qui a participé grandement à marquer l'histoire du cinéma en termes de technologie, mais même en termes de cinéma tout court. Donc, il y a des documentaires sur la création de Titanic, il y a des interviews. Enfin, on parle quand même d'un film qui a... De toute façon, et comme tu l'as dit tout à l'heure, un des films les plus vus au monde. Donc forcément, des sources, il y en a sur le film. C'est pas le petit film indépendant où on doit galérer pour trouver quelques sources. Tout est là. Il y en a même énormément. Donc oui, ça a été, ça a aussi contribué au fait que le film a encore plus plu, en fait. Cameron a créé des choses spécifiques pour le film. Les robots que vous voyez au début, qui sont en train de chercher les épaves, il a vraiment été chercher les épaves du Titanic. Donc ça, c'est vraiment des choses où on se dit, mais c'est dingue de faire tout ça pour un film. Et c'est ça qui presque fait tourner la tête. Moi, quand j'ai commencé à me renseigner là-dessus, j'étais fin du collège, début lycée, je me disais, mais... C'est incroyable de faire tout ça pour un film, pour que les gens puissent voir pendant 3 heures un film. Et puis alors, après, quand j'ai grandi et que j'ai appris qu'il avait fait réouvrir l'usine initiale du caviar pour servir le vrai caviar aux acteurs, enfin, on dépasse... Non mais voilà, on est dans quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont me dire après que le cinéma c'est que du divertissement, non, c'est faux.
Pour lui, c'était bien plus qu'un projet de cinéma en fait.
Et bien sûr.
Je tiens à préciser que tu fais référence au Fantôme du Titanic, c'est un documentaire que je vous invite à regarder vraiment qui date de 2003. Et il y a un autre aussi documentaire qui est disponible sur Disney+, celui-là, c'est oui. Titanic 20 ans après.
C'est
ça. Je sais pas si tu l'as visionné aussi, mais...
C'est ça, c'est pas mal. Après encore... Vous n'êtes sûrement pas à mon niveau, Tant mieux pour vous. Mais quand on a beaucoup lu sur le film, c'est vrai que ce documentaire n'apprend pas. Enfin, il y a quelques exclusivités, mais bon, là, on dépasse un petit peu le cadre du film. Et c'est vraiment bien aussi que les plateformes puissent mettre en ligne ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, où finalement, à part les fans du cinéma vont encore acheter des Blu-ray avec des bonus, etc., c'est quelque chose quand même qui s'est perdu. Et je trouve que c'est dommage, justement, par rapport aux plateformes, parce que on n'a pas, du coup, tous ces annexes, en fait, de disponibles. Et quand il y a ce genre de choses qui est disponible, je vous invite vraiment à le voir parce que on comprend aussi la grandeur du cinéma. Alors là, encore une fois, on parle d'un film à grand budget, mais même quand c'est des plus petits films, on voit aussi comment ça fonctionne en fait le cinéma et c'est très intéressant.
J'aime bien poser cette question parce qu'en général, ça fait réfléchir mes invités. Quel titre tu donnerais à l'épisode qu'on vient de faire ensemble, à ton épisode, Pauline? Il y a des anciens épisodes où, par exemple, Céan disait que The Social Network, c'est ce film qui lui a permis de limiter son utilisation des réseaux sociaux. Un autre camarade, Tristan, disait en voyant Home que ce film lui a permis de mieux s'informer sur tout ce qui concerne l'écologie, film de Bertrand, Yann Arthus Bertrand. Toi, en voyant Titanic, quel titre tu pourrais donner?
Titanic m'a fait devenir accro au cinéma. Parce que quand j'ai vu Titanic, je me suis dit « Waouh, on peut faire ça au cinéma, je veux voir encore plus ». Donc après, j'ai regardé tous les films de la fin des années 90 et début 2000 où on avait à la fois ce côté grand spectacle et ce côté d'auteur, en fait. Et ça m'a vraiment, moi, construite aussi. Même si aujourd'hui, je vais regarder des films bien plus indépendants, je vais toujours rester attachée aux films qui ont la patte du cinéaste et en même temps grand spectacle. Un de mes réalisateurs préférés, c'est Steven Spielberg, et il mélange ces choses avec beaucoup d'habileté. Donc oui, évidemment que Titanic m'a fait devenir critique puisqu'il m'a fait devenir amoureuse du cinéma, et c'est cet amour et cette passion du cinéma qui m'a fait devenir critique.
Merci beaucoup, on aura bien compris tout l'amour que tu portes au film Titanic. Ce film est disponible sur les plateformes VOD comme Canal VOD ou Apple Plus. Faites comme moi, je l'ai regardé, je l'ai loué. Je me suis pas taper les pubs sur TF1, non. Allez, dernière ligne droite, avec, s'il te plaît, deux films à conseiller à nos auditrices et à nos auditeurs, deux recommandations, deux autres films qui t'ont marqué. Une première recommandation, Pauline, s'il te plaît.
Eh bien, ma première, c'est La leçon de piano de Jane Campion, qui, ici et là, rejoint un peu Titanic. J'avais pas tout de suite fait le lien, et puis Céline Sciamma a sorti Portrait de la jeune fille en feu, et elle a dit que Titanic était une de ses inspirations pour Portrait de la jeune fille en feu. Et évidemment, quand on voit Portrait de la jeune fille en feu, on y voit La leçon de piano de Jane Campion. Et quand j'ai revu du coup ce film de Jane Campion que j'aime énormément, il y a deux films que j'aime énormément de Jane Campion. Il y a celui-ci, Un ange à ma table, qui est un film un peu moins connu, mais qui est vraiment merveilleux. Et
tu peux nous résumer le son de piano pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un film avec Holly Hunter et Anna Paquin, qu'on a pu voir plus tard dans True Blood et dans les X-Men.
C'est un film qui est sorti justement, il me semble, début des années 90. Le film se passe au 19e siècle, et c'est une jeune fille qui est envoyée en Nouvelle-Zélande pour y épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Elle se retrouve dans un monde très hostile, puisque à la fois elle est donnée à cet homme, et en même temps elle connaît absolument rien de l'endroit où elle est envoyée. La seule chose qui lui était autorisée à garder, c'est un piano. Et donc évidemment, elle ne peut pas se séparer de ce piano, on le comprend très vite, et sa seule envie, c'est de le regagner, de regagner ce piano pour y jouer, en fait. Et donc, il y a tout ce côté très sensuel dont je parlais, par exemple, tout à l'heure, quand Jack dessine Rose, puisque là où le toucher, en fait, elle ne touche pas un corps, mais elle touche un piano comme Jack touche un fusain et un papier. Et c'est là aussi où, quand j'ai revu La leçon de piano récemment, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose. Alors, on est avant Titanic, hein, alors, donc ça devait peut-être c'était peut-être même pas une influence pour James Cameron, mais en tout cas, il y a ce côté très sensuel par la création.
Donc pendant que je vais fouiller s'il est dispo quelque part, je vais te demander, s'il te plaît, ta seconde recommandation, Pauline.
Juste pour te dire, il est sur la Cinéthèque, parce que j'ai pu le revoir là-bas.
Ah, très bien, bah nickel. Parfait. Donc sur le site de la Cinéthèque. C'est la Cinémathèque des réalisateurs, hein, d'ailleurs.
C'est ça. Et il y a un autre film que j'ai envie de recommander, alors que je ne sais pas si les gens seront d'accord avec moi par rapport au fait de le revoir ou non, mais je l'ai fait découvrir à la personne avec laquelle je vis pendant le confinement, et ça m'a fait presque du bien de le revoir pendant ce confinement. C'est Her de Spike Jonze.
Oui, magnifique film. Moi, j'aime bien.
C'est un film qui parle d'un amour impossible, en fait. Puisqu'on se retrouve dans un futur proche où l'intelligence artificielle fait partie de nos vies, et on suit un personnage qui est joué par Joaquin Phoenix qui va tomber amoureux en fait d'une de ces intelligences artificielles qui est incarnée juste par la voix de Scarlett Johansson. Et je trouve qu'à plein de niveaux, ce film est très... m'a beaucoup marqué. Et le revoir pendant le confinement, ça a été quelque chose de presque apaisant, puisque le personnage est très seul. Et puis, c'est un film aussi que je trouve intéressant, puisque là où on a énormément sexualisé Scarlett Johansson, elle est dénuée de corps dans ce film. Et je trouve ça très, très intéressant d'avoir fait de Scarlett Johansson juste une voix, là où, en fait, elle a perdu son corps. Son corps qui a, depuis... toujours été
sexualisé
par le regard des caméras qui étaient posées sur elle, et je trouve ça je ne sais pas si c'est conscient en fait de l'avoir fait, parce que en fait elle a une voix qui est très sensuelle et une voix qui nous envoûte, donc finalement on pense à son corps, et puis elle est tellement connue que quand on entend Scarlett Johansson, on voit qui elle est, donc automatiquement on voit ce corps. Mais en tout cas, moi je trouve que cette dimension-là est très intéressante, puisque quand on s'intéresse justement à la représentation des corps féminins au cinéma, Scarlett Johansson c'est quand même l'exemple de la personne qui est toujours sexualisée, et Under the Skin jouait de ça aussi. Mais là en fait on lui enlève son corps. Et c'est pour ça aussi que je trouve le film très intéressant.
Oui, en version française, pour info, celle qui double Scarlett Johansson est aussi une voix particulièrement agréable à entendre. C'est celle d'Audrey Fleurot qu'ils avaient choisie pour la VF.
Donc, c'est très intéressant aussi, du coup.
Oui, et c'est drôle parce qu'elle utilise une expression pour dire que Scarlett Johansson parlait avec une voix de vagin, une voix extrêmement sensuelle, voire sexuelle, qu'elle ne pouvait pas jouer de la même façon, donc elle la joue un peu autrement. Mais oui, Her est un très très bon film, pareil, disponible sur tous les sites de VOD, YouTube, Canal+, VOD, Apple, ce que vous voulez. Her de Spike Jonze, qui date de 2013, ouais, super choix. Je te remercie beaucoup, Pauline, on a fait un peu long, mais c'est pas grave parce que c'était extrêmement riche. Donc merci beaucoup, Pauline.
Merci à toi pour ton invitation, c'était très bien de pouvoir parler de Titanic.
Avant de se quitter, je tiens à vous rappeler que Pauline Mallet anime le podcast Cinéma et Féministe Sorociné, dont l'objectif est d'échanger, de débattre à plusieurs voix féminines d'un film, d'un réalisateur, d'une réalisatrice ou d'une thématique du 7e art, en plus de prendre le temps de valoriser le travail des femmes dans le monde du cinéma. D'ailleurs, Sorociné est aussi devenue une revue, donc longue vie à la revue Sorociné. Le film qui a changé ma vie, c'est déjà fini. Vous pouvez écouter ou réécouter l'émission que vous venez de suivre sur toutes vos plateformes streaming préférées. Pour aider à faire connaître le podcast, c'est tout simple. Il suffit de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire qui va bien. Les coulisses de l'émission sont à découvrir sur nos comptes Facebook, Twitter et Instagram. Le film qui a changé ma vie. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.